De retour à l'eau showbiz sur les ondes de CJSO 101.7 FM. Ils sont venus nous voir pour leur premier album et c'est normal de les recevoir pour le deuxième. Chéri Chéri, messieurs, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Très, très bien.
Nouvel album, changement un peu dans le son aussi, comment c'est arrivé ça, ce côté-là? On a laissé le côté sugar.
Ben en fait, on avait beaucoup d'argent à investir, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent-là, ce magot-là qu'on a réussi à amasser. Ben finalement, on a décidé de le faire dans une grosse production sonore et ça donne le résultat de Adieu Veracruz, l'album qu'on a lancé en octobre dernier.
Est-ce que ça vient avec un questionnement tout ça, parce que tu parles d'argent, mais il y a ça, il y a ce côté-là là-dedans, là. Et puis c'est un band, donc... Il faut que tout le monde soit d'accord. De dire, est-ce qu'on y va le tout pour le tout ou on y va à tâtons encore?
Ben, on aime jouer au poker, donc on est habitué de faire des all-in. Donc, ça a été le cas pour cet album-là aussi. Je pense que tout le monde était vraiment convaincu des chansons. On s'est dit, allons-y. Donc, on a mis le tout pour le tout, autant pour l'album que pour les habits de scène, que pour les photos qui ont coûté une fortune, mais qui sont très, très, très belles. Donc, c'est pour ça qu'on a amené des affiches ici. C'est pour être sûr que tout le monde les voit, nos belles photos qui ont coûté cher.
Tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'était quoi la question?
Ben, je disais, il faut être d'accord, tout le monde, de dire on met tout.
Oui. Ben, nous, ça fait 7 ans que le groupe existe. C'est notre deuxième album. Puis on trouvait que les chansons, c'était les meilleures qu'on avait. On avait une certaine maturité musicale qu'on avait atteinte. Puis on avait une bonne idée en tête pour le son, comme tu disais, qui est un petit peu changé. On était beaucoup dans le rétro un peu léger avec J'entends la bête. Là, il y avait des teintes un peu plus obscures de surf, un peu à la film noir Tarantino-esque, tu sais, Missir Lou, Pulp Fiction et tout ça. Là, il y a vraiment une esthétique surf sur cet album-là. Puis on voulait le faire bien, on voulait prendre notre temps puis faire comme on faisait à l'époque, les grosses prods qui s'étendent sur 2 mois où on s'isole dans une maison comme les Stones avaient fait avec Exile on Main Street en 71. Ils étaient dans une grosse maison en France puis ont enregistré cet album-là sur deux, trois mois. Mais on a quasiment fait pareil. Fait que c'est un peu notre Exile on Main Street. Mais nous, c'est un exil à Shefford.
Ben, c'est aussi glam. Qu'est-ce que ça a permis, ça, cet exil-là à Shefford? Évidemment, c'est une cohésion, quelque chose qui se tient dans le band, d'être ensemble et de créer non-stop.
On a loué une maison à côté du studio Ouidir. C'est le studio de Pierre Duchesne. C'est un réalisateur émérite qui a fait son nom surtout dans les années 90, au début. Après avoir fait des tournées avec Rock Voisine, c'est un bassiste pour Rock Voisine, il était tanné de faire de la tournée. Fait qu'il a commencé à réaliser des albums, des petits albums comme celui de Kevin Parent, Pigeon d'argile, qui était supposé être vendu.
Un petit peu
marché. C'était supposé être vendu à 30 000 exemplaires. Ils sont venus le voir et ils ont dit « On a un petit artiste, on va en vendre 30 000, tu veux-tu le réaliser? » Le réaliser, finalement, ça a été x10, au-dessus de 300 000 albums. Mais depuis ce temps-là, il a vraiment pris du coffre comme réalisateur. C'est un bon musicien, un bon arrangeur. Puis il y avait l'intelligence, puis l'expérience pour saisir ce qu'on voulait faire. Nous, c'est pas renier nos racines vintage, rock'n'roll, mais de faire quelque chose quand même actuel. Puis le fait de s'isoler 2 mois à côté de son studio à 5 minutes, prendre notre temps avec lui, on a réussi à atteindre ce qu'on voulait.
Mais c'est un bon test pour un band, ça, par exemple? Être 2 mois ensemble, enfermés dans une maison.
C'est un très bon test, mais en fait, ça nous permettait d'être aussi loin de toutes les vices de la ville. Donc, on a vraiment pu prendre
loin
l'air pur.
Loin des cellulaires.
Mais loin de toutes ces vices-là. Donc, on s'est vraiment focussé sur le groupe. Donc, ça a uni le groupe. Et ensuite, ben, ça a vraiment permis de focusser à 100% sur... Il y avait même une batterie qu'on avait amenée dans notre maison à Shefford où on pouvait pratiquer la batterie. Là, même quand on avait fini le studio d'enregistrement, ben, on venait jouer la batterie.
Notre drummer, il finissait les journées de studio puis il arrivait à la Maison Jaune puis il pratiquait sur son drum.
Qui était non-stop, lui.
Ouais, non-stop. On avait même un spa. Puis on enregistrait à l'automne, octobre, novembre. Puis à la fin, il neigeait. T'sais, on a vu toutes les saisons. Au début, il y avait encore des feuilles des arbres, il faisait beau. On a vu l'automne. Puis à la fin, quand c'était rendu l'hiver, il neigeait, puis on était dans le spa. Ça, c'était surtout Gab, le bassiste, qui prenait un spa le matin et soir. Puis même quand il n'y avait pas besoin de faire des tracks, quand on faisait des tracks de git ou de voix, il retournait à Maison Jaune. C'est comme ça qu'on l'appelait, la Maison Jaune, parce qu'elle était toute jaune. Il retournait faire des spas pendant l'heure du dîner.
Donc maintenant, il est tout ratatiné. Là. Si vous avez remarqué là, sur le stage, il est vraiment ratatiné.
Pourquoi Pierre Duchesne?
Ben en fait, tout le monde nous le conseillait. Quand on faisait notre petit magasinage de réalisateurs, on voulait vraiment l'espèce de réalisateur qui va comprendre d'où on vient, qui va pouvoir nous amener plus loin, qui a vraiment une espèce d'écoute pour tout, qu'est-ce qu'il est tone, venir chercher l'espèce de texture vintage, mais en même temps, qui a quand même beaucoup de knowledge, de connaissances musicales, qui va être complémentaire à notre approche. Puis il y avait tout. Il y a tout ce monsieur-là. Après toutes les multiples recommandations qu'on a eues, ben, on a décidé, Pierre est notre homme. Et tu voulais ajouter quelque chose par là?
Ben, Pierre, c'est un gars très discret. Il y a beaucoup de groupes qui vont prendre des réalisateurs, des artistes connus. Puis là, ça fait comme une espèce de name-dropping. Oh, tel album a été réalisé par tel artiste. On y a pensé, mais il reste que... Pierre, peut-être un peu sous-estimé parce qu'il est moins connu, il est moins à l'avant-plan, mais c'est un des, si pas le meilleur réalisateur au Québec. Puis nous, on a opté pour la compétence versus
le nom.
Ouais, la popularité médiatique.
Puis en fait, il a été, pour venir appuyer le point à Paolo, il a été choisi parmi plusieurs réalisateurs au niveau mondial pour faire une formation avec Andrew Sheps, qui a été, dans le fond, qui a mixé les plus grands noms tels que Green Day, Beyoncé, Metallica, etc. Il donnait une formation en France et Pierre a été le seul Canadien choisi pour faire cette formation-là. Donc, il est allé faire cette formation-là en France, il est revenu. Et il a mixé notre album. Donc, on a vraiment eu droit au premier balbutiement là,
de sa formation.
Là, donc, si vous trouvez que ça sonne vraiment comme Beyoncé, c'est normal.
Mais c'est celui qui apporte le recul, parce que vous êtes toujours ensemble, vous faites de la scène ensemble, vous créez ensemble. Lui, c'est le regard extérieur qui l'apporte. Et les idées auxquelles vous avez peut-être pas pensé aussi, qui l'ajoute au groupe.
Ben oui, c'est ça. L'espèce de signature qui fait que l'album a vraiment une unicité. On voulait qu'il soit, qu'il s'écoute bien du début à la fin. Puis là, on se fait dire que c'est pas pour se vanter, mais on se fait dire souvent, puis des fois c'est un problème, toutes les chansons sont bonnes. Des fois sur un album, il y a 3-4 vraiment, vraiment bonnes chansons qui se démarquent, puis c'est facile de choisir les extraits
radio. Oui, ça devient les extraits radio. Puis
là, nous, on demande à notre équipe, bon, c'est quel le prochain, puis on a beaucoup de difficultés à le dire parce que toutes les chansons sont égales. Ben là, j'espère qu'elles sont quand même assez bonnes. C'est pas toutes les chansons sont également poches.
Donc, on va prendre des suggestions. Si vous voulez nous appeler, on va prendre toutes les suggestions. C'est quoi la prochaine tune qu'on devrait jouer?
Et là, il y a un vinyle qui existe de ce disque-là, qu'on est inspiré par les bands des années 60 au départ. C'est ça qu'on veut, j'imagine, c'est le kick.
Ben, en fait, oui, ça coûte cher, mais c'est tellement beau, c'est tellement... Tu sais, je pense qu'avec l'aspect numérique, on perd le petit côté de déballer son CD ou son l'objet qu'on achète, puis il y a comme une espèce d'attention, d'affection envers l'objet. J'ai encore mon premier album de Green Day que j'avais acheté en 94. Je l'aime. J'ai une affection pour cet album-là.
Qui était en vinyle ou en cassette?
C'était une cassette que j'avais achetée. Je pense que c'est une cassette que j'avais achetée. Mais j'ai encore une affection pour cet objet-là. Donc, je pense qu'il y a le petit rituel aussi de mettre l'album puis de l'écouter du début à la fin qui est intéressant. On l'avait fait pour J'entends la bête parce qu'on avait fait J'entends la bête comme dans les années 60 là, avec les machines des années 60. Et on a comme pas le choix finalement de faire des vinyles comme dans les années 60. Puis pour ce projet-là, ben, je pense qu'il y avait une facture visuelle qui était intéressante. Donc avoir une belle grosse pochette avec la jolie demoiselle qui se retrouve sur le devant, c'est intéressant parce que c'est beau. Mais aussi avec les couleurs, on a choisi de faire un vinyle jaune flash, donc qui match avec le petit côté noir, film noir. Donc ouais, pour l'objet, juste l'objet est beau, mais c'est encore mieux quand on l'écoute, par exemple. C'est vrai.
Il n'y a pas Ariane Vaillancourt qui vous a donné un coup de main aussi?
Oui, Ariane, c'est une chanteuse qui enseignante à l'école de la chanson de Granby, qui est aussi qui va faire partie de la tournée de Cœur de Pirate. C'est un scoop. Je ne sais même pas si on a le droit de le dire.
As-tu le droit de le dire?
En tout cas, elle va nous chicaner si on n'a pas le droit. Mais oui, elle nous a aidé beaucoup pour les voix parce qu'on fait, comme dans les années 60, beaucoup d'arrangements de voix à trois. On est trois chanteurs. Puis on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus, mettre les voix en avant, faire des beaux arrangements. Puis Ariane nous a donné un coup de main là-dessus.
Il fallait ça? Parce que vous vous connaissez, vous auriez pu faire les harmonies vous-même de votre côté, mais ça prenait Ariane.
On en a fait une bonne partie. Toutes les idées, toutes les mélodies, on les a arrangées une première fois nous-mêmes quand on faisait nos propres maquettes. Puis après, ben ouais, Ariane est venue comme resserrer ça, puis elle a fait un peu de coaching vocal avec nous, juste pour comme que toutes les trois voix blendent. Tu sais, des fois, Alex faisait la voix vraiment haute, la voix aiguë, alors qu'il y a une bonne voix pour faire les basses. Les voix aiguës, il y a vraiment beaucoup de baisse dans sa voix, puis des trucs qu'on savait pas. Puis Ariane, avec le recul, elle nous a comme à leur placer nos voix. Non, finalement, ça va être l'inverse. Toi, tu fais la voix haute, Alex fait la voix basse, etc.
Vous n'avez pas quitté vos jobs pour ce projet-là? J'ai pas vu ça quelque part.
Oui, on l'a quitté jadis. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais. Ouais, mais on...
C'était le all-in dont ouais, on parlait tout à l'heure, c'était de dire on s'investit ou on s'investit pas.
Ouais, c'est difficile de garder une job quand on s'en va faire un album à temps plein sur deux mois de temps. Puis on avec les shows puis tout ça, on voulait pas se taper un burn-out, ce qu'on était à la veille de faire. Donc là, on est toujours sans emploi. Fait qu'on attend les appels pour les shows. Mais il y a beaucoup de shows qui s'en viennent cet été. Fait qu'on on est content d'avoir le temps de monter un bon show parce que là, c'est le spectacle qui commence. Il faut amener ça sur scène, cet album-là.
Et là, vous avez parlé des costumes. C'est en l'air, est-ce qu'il y a un gros changement avec le premier spectacle pour ceux qui vous ont vu en tournée?
Ben en fait, oui. C'est sûr qu'on a peaufiné les stépettes et le déhanchement. Ça, c'est sûr que c'est la version 2.0 pour les stépettes et le déhanchement. Mais aussi, pour faire un petit clin d'œil quand même aux années 60, on est tous habillés. Les cinq pareils, juste pour faire
comme
un petit clin d'œil.
Comme les bandes de l'époque.
Ouais, puis là, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais on a choisi de faire ça en veston et en col roulé. Comme,
ça va être la fun cet été, ça.
Ben, c'est exactement ça. On l'a fait à quelques reprises. On l'a fait dans un show récemment au Quai des Brumes, reconnu pour son engouement pour le party. Et le jaune moutarde était rendu quand même jaune foncé là, à celui du spectacle. Ensuite, on a, pour les salles, fait des projections. Donc, on a réussi à animer l'intérieur de la pochette. Donc, un soleil couchant avec des vagues. Ben là, on a décidé d'animer les vagues. Donc, quand on joue, on se sent vraiment sur le bord de la plage parce qu'il y a vraiment une thématique surf à l'album. Donc, on voulait vraiment ramener les personnes sur le bord de la plage dans cette espèce de ville qui est Veracruz parce qu'on a appelé l'album Adieu ouais. Veracruz. Veracruz qui est une île... Ben, en fait, qui n'est pas une île, qui est une ville au Mexique qui était... un paradis balnéaire, une station balnéaire là, de prisée dans les années 60, les années 70 aussi. Et maintenant, c'est rendu une ville qui est rongée par le crime. Donc, on voulait ramener les personnes de façon tout à fait sécuritaire à Veracruz. Donc, c'est une espèce de voyage à Veracruz sécuritaire, sans être sûr qu'il n'y a personne qui va mourir lors d'un spectacle. Inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment que du rock'n'roll. Et ouais, voilà.
L'influence surf, ça vient de où? C'est les bands que vous avez écoutées?
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bandes qu'on a écoutées, dont les Ventures, Dick Dale, Paolo en parlait plus tôt, mais il y a aussi le fait qu'on a fait des tournées, et on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on allait sur le bord de l'eau, il y avait une inspiration. Donc, on est allé au Sea Shack en Gaspésie, okay. Qui est une auberge festive, et quand on dit auberge festive, il y a, je pense que c'est F majuscule pour festive, donc on a vu les levées de soleil, je pense que ça nous a beaucoup de levées de soleil, donc je pense que ça nous a inspiré des chansons, en fait ça nous a inspiré plusieurs chansons sur l'album, donc il y avait vraiment comme une espèce de thématique, je sais pas pourquoi, ça s'est imposé, on n'a pas décidé volontairement de dire on fait un album surf, mais il est arrivé ces événements-là, dont l'auberge festive, F majuscule, le Sea Shack. Et il y a aussi des bandes qu'on aime aussi actuelles qui font dans ce style-là aussi, comme les Alalaz et d'autres groupes cool. Je ne sais pas, Paolo, tu veux-tu rajouter de quoi par rapport au surf? Parce que Paolo, c'est vraiment un excellent guitariste, en plus d'être un excellent chanteur. Donc, il y a vraiment ça dans les doigts. Les riffs surf, je pense que ça sortait de lui, ça émanait de lui.
Ben, le surf, c'est beaucoup la guitare, évidemment.
Oui, c'est la guitare, mais Alex le dit, c'est Dick Dale. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, justement, la chanson « Missir Lou » dans Pulp Fiction. C'est une chanson de 1962. C'est pas très actuel, mais c'est typique.
Ça a été ramené à la mode par
le film
Pulp Fiction.
C'est vraiment le film qui l'a rendu populaire. Mais le « Sir », à la base, c'est de la musique instrumentale avec des guitares. Puis nous, bon, ben après ça, il y a tout le surf ou avec les harmonies de voix comme les Beach Boys. Souvent, quand on parle de musique surf, on pense aux Beach Boys parce que beach, puis il y avait des planches de surf dans leur
boîte. C'est sûr d'être plus clair.
Même s'ils ne surfaient pas.
Mais tu sais, je ne veux pas être trop technique, mais c'est un son dans la guitare qui est très, on appelle ça, il est très mouillé. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de reverb et de trémolo et de... un slap back, ouais, un délai qu'on appelle. En tout cas, ça, c'est des termes techniques, mais c'est vraiment la signature de guitare, du son de la guitare qu'on retrouve sur l'album. Voilà.
Est-ce qu'on conçoit un deuxième album différent d'un premier? Le premier, c'est la carte de visite. On essaye de se faire connaître du public. Le deuxième, il y a déjà des gens qui nous connaissent un peu, des gens qui nous ont vus en show. Et il y a un délai, parce qu'on veut pas attendre 15 ans avant de sortir le deuxième, alors que le premier, on peut le sortir quand on veut. Est-ce que c'est une pression? Est-ce qu'on le fait différemment?
Ben en fait, c'est vraiment drôle parce qu'on a sorti un premier EP en 2013 avec 5 chansons, rock'n'roll, énergique, rockabilly. On a sorti ensuite le deuxième album, J'entends la bête, en 2015. Mais dès qu'on a fini le EP, on a déjà commencé à travailler sur l'album. Puis dès qu'on a fini de sortir l'album J'entends la bête, on commençait déjà à travailler sur Adieu Veracruz. Donc ça s'est vraiment fait naturellement. Donc on n'a pas senti la pression, ça a juste... Les chansons sortaient d'elles-mêmes, donc je sais pas si c'est parce que les choses qu'on vivait, donc ça parle de plein de trucs. Bon, il y a une chanson qui s'appelle L'amour à trois, faut pas se faire des idées, là, c'est vraiment au niveau métaphorique, là, mais vous allez découvrir si jamais vous écoutez la chanson. Mais les chansons émanaient, ils sortaient, donc on n'a pas nécessairement, je pense pas qu'on a réfléchi à ça, je sais pas, Paolo, pour toi?
Ben, on n'a pas trop réfléchi, mais on... En écoutant le J'entends la bête puis le EP, c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on se dit « Ah, si on avait eu à le refaire, on l'aurait fait différemment dans la réalisation. » Ou si, à force de faire un métier ou de se pratiquer à quelque chose, on devient meilleur. Fait que, tu sais, des trucs qu'on écoute sur J'entends la bête dans la composition, dans l'écriture, les textes puis tout, qu'on se disait « Bon, ben le prochain, on va s'y prendre un petit peu mieux. » Ben c'est la pression est peut-être là, juste de faire quelque chose de mieux puis de continuer à progresser. Puis avec Adieu Veracruz, on a vraiment atteint le niveau qu'on voulait atteindre. Moi, je pense que la pression, c'est pour le prochain album.
Vous commencez déjà à vous la mettre sur les épaules. J'entends la bête, avait eu un beau succès critique et public aussi. Est-ce qu'on a hâte de lire les critiques quand on sort un autre album tout de suite après? Quand on sait que ça a bien marché la première
fois? Oui, vraiment.
Fois?
Ben, J'entends la bête, il y avait l'effet de nouveauté. Beaucoup les blogs, beaucoup de gens en ont parlé parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis c'est un son, le rock'n'roll, chanté en français comme on le fait. Il n'y a pas énormément de groupes qui le font, qui le faisaient et qui le font aujourd'hui. Fait que tout l'effet de nouveauté a fait qu'on en a parlé beaucoup. Là, pour cet album-là, on a eu... Les critiques ont commencé à sortir, là, parce que ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti. Puis c'est des... Je pense que les critiques musicaux... D'ailleurs, il y a des critiques musicaux un peu plus... qui ont plus de notoriété, qui l'ont écouté puis qui en ont parlé dans Le Devoir, justement, Sylvain Cormier, entre autres. Puis ils ont vraiment saisi ce qu'on essayait de faire. Puis... Sylvain Cormier, qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot pour décrire l'album?
Épatant.
Ah oui, il a dit en un mot, épatant. Fait que ça nous a vraiment fait un petit velours là, d'entendre ça. C'était comme, pour nous, c'était mission accomplie. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a dit exactement, mais il sortait... Les gars ont réussi à sortir du pastiche, qui était peut-être un des pièges qui ont fait ce style de musique-là, un peu rétro. C'est de faire des chansons, réécrire les mêmes chansons qui ont déjà été faites des dizaines et des dizaines de fois. Puis il a dit, bon, les gars, ils ont transcendé le pastiche, puis on sont avec des chansons originales, pertinentes en 2018.
Avez-vous peur à ça? De devenir une caricature de vous-même, en quelque part, en refaisant toujours la même chose?
Je pense que c'était le défi pour cet album-là, de vraiment... parce que souvent, on a des entrevues... C'est le fun des entrevues comme ça, on les apprécie parce qu'on permet de vraiment plongé dans l'univers de Cherry Cherry, outre les déhanchements, parce que souvent, c'est souvent les questions qui sortent, c'est « Bon, est-ce que tu peux te déhancher pour nous? » Et c'est quelque chose qui est quand même récurrent, mais ça fait plaisir, c'est cool. Mais en même temps, il y a quand même tout un travail qui est derrière ça, dans l'écriture, dans les sonorités, dans les choix des arrangements. Donc, oui, il y avait... Des fois, on pourrait dire « Ah oui, on va jouer la carte qui est... c'est y a des déhanchements, mais il y a aussi toute l'énergie brute du rock'n'roll. Je pense que le rock'n'roll est des fois sous-estimé. Je parle du rock'n'roll
à l'état pur.
À l'état pur, je sais pas, y a-t-il une pureté du rock'n'roll, je sais pas. Anyways, mais le rock'n'roll des fois sous-estimé parce que c'est un style que on pense à Elvis, mais on comprend pas nécessairement aussi l'impact que le rock'n'roll a eu, l'espèce de libération que dans le fond, quand c'est arrivé dans les années 50, on passait d'un style qui était quand même convenu à une espèce de folie. Je pense que c'est ça que le rock'n'roll venait chercher en nous. Puis, on peut venir jouer les cartes du rock'n'roll, comment je vois ça, de pastiche, mais les cartes du rock'n'roll à la base, mais la base du rock'n'roll, je sais pas si c'est clair comment je l'explique, là, mais les bases du rock'n'roll, c'est quand même ça, c'est le laisser-aller, c'est la fête, c'est quelque chose de libérateur. Donc je pense que on a misé plus sur l'aspect libérateur que plus sur la caricature.
On parlait tout à l'heure d'influence vintage avec un son actuel. À quoi il ressemble votre public? Est-ce que c'est un heureux mélange des deux époques?
Je pense que oui, ça a toujours été assez grand public. C'est sûr que les gens qui ont vécu l'époque des années 60
sont là. C'est ce que j'allais dire, ils doivent être là puis ils doivent
surtout au début, triper là-dessus. Surtout au début parce qu'on faisait des reprises des années 50 quand on a commencé. Fait que le public plus vieux trippait. Mais de plus en plus, c'est des jeunes qu'on voit dans les salles puis des jeunes qui redécouvrent ce style-là. Puis...
Ben, qu'ils ne connaissent pas pantoute,
en fait. Non, qu'ils ne connaissent pas. Puis de toute façon... C'est pas on reprend pas des chansons, on fait des chansons qui ont été écrites cette année, mais tu sais, le rock'n'roll, ça meurt pas. Là. On a beau dire qu'il y a des nouveaux styles qui naissent, mais je veux dire, un bon show rock, c'est pas battable.
Non.
Les gens, ils vont aimer ça jusqu'à la fin des temps. Là, je veux dire, t'as beau mettre un DJ puis mettre quelque chose de super actuel, mais un band live qui joue du rock, du bon rock dansant, qui donne le goût de fêter jusqu'au lendemain, ça... C'est pas battable, tant qu'à moi.
Est-ce que dans... Ouais, vas-y.
Non, c'est ça. Les derniers shows qu'on a fait au Quai des Brumes, c'était rempli de jeunes dans vingtaine qui trippaient, puis qui suaient, qui se frenchaient. Puis...
Est-ce que c'est un mélange des deux albums dans votre spectacle? Est-ce que vous avez réussi à intégrer le premier album, même si les univers sont pas nécessairement les mêmes?
À chaque fois, je me fais avoir. C'est une excellente question parce que oui, le défi, c'était un peu de faire l'espèce de lien entre le côté d'Adieu Veracruz qui est plus surf, qui est plus Tarantino-esque, pour reprendre les termes de Paolo Filippo, ici à ma droite. Et de venir chercher le rock'n'roll qui était quand même très dansant. Donc, on a fait une trame narrative. Donc, on s'est vraiment... On a travaillé avec quelqu'un pour la mise en scène, Katia Gagné, pour ne pas la nommer, qui a vraiment saisi l'énergie pure de chaque chanson et d'en faire une espèce de tableau, une espèce d'épopée à travers le rock'n'roll. Donc, on commence surf... primitif, bestial, et ça finit dans l'aspect super festif et dansant. Donc, il y a une espèce de on atteint tranquillement, pas vite, l'apogée. Donc, c'est comme une relation amoureuse. C'est plus c'est long, plus c'est bon.
Et est-ce que c'est plus facile de faire un show? Parce qu'on a deux disques maintenant. On n'est plus obligé d'aller dans les covers, d'aller un peu partout. On peut juste faire un automne.
Ben, c'est rendu difficile de couper les tunes parce qu'il y a beaucoup de chansons dans l'ancien show qui marchaient vraiment bien, mais qui fait un petit peu moins dans le nouveau show. Puis ça a été difficile, même crève-cœur, d'en laisser certaines de côté. Mais là, une fois, justement, avec le recul, Katia Gagné, c'est une metteur en scène, d'ailleurs, qui, entre autres, qui travaillait pour le Festival de la chanson de Granby. C'est là qu'on l'a rencontré en 2014, qu'on a fait le festival. Puis elle nous suit depuis. Mais elle nous a vraiment aidé d'un point de vue extérieur à choisir les chansons, à donner comme, ben là, je vais me répéter, là, mais à avoir une histoire, puis des vraiment rentrer dans des bulles, des trois, comment qu'elle dit ça,
trois actes.
Ouais, c'est ça, un spectacle en trois actes. Parce qu'on fait des ballades aussi, il y a des chansons qui sont un petit peu plus tone down, puis des plaintes.
C'est dur de les intégrer un peu partout dans le show. Il faut vraiment que ça soit séparé.
Ben, il y a des moments pour ça dans un show. On veut pas tout le temps garocher des riffs de guitare, des gros beats en face du monde, parce que ça devient un peu difficile. Il faut qu'il y ait des nuances, il faut que ça drop à certains moments. Puis c'est de bien placer ces chansons-là où on reprend son souffle, ou même on peut faire danser le monde. Enfin, il y a un plein dans le show.
Ben, messieurs, si on veut vous suivre, on va sur votre site internet. Toutes les dates sont là?
Oui, toutes les dates sont là sur notre site internet. Si vous voulez voir les belles photos de Paolo, c'est sur l'Instagram. Moi, j'en ai pas tant que ça parce que je suis pas tellement photogénique, mais...
C'est toi qui prends les photos. Pas trop fort, c'est selfie.
Exact. Mais sinon, on annonce ça en grande pompe aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, etc.
Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ben, merci de nous avoir accueillis, d'avoir posé plein de belles, bonnes questions. On l'apprécie.
Ben, merci beaucoup.
Merci.